m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, en effet, bienvenue. Nous recevrons ce soir deux personnes à la parole libre, et c'est le thème de cette émission, Marc Doyer, que nous représenterons tout à l'heure, et Nicolas Bay. Ce sont des personnes libres car elles n'ont pas hésité face aux appareils des partis, comme pour Nicolas Bay, ou face juste à la pression de l'opinion et même à la présidence de la République, pour Marc Doyer, à exprimer haut et fort ce qu'elles pensaient de la situation et à faire des choix courageux qui les a engagés l'un et l'autre dans leur vie sur des chemins qui n'étaient pas forcément ceux auxquels ils s'attendaient, et chemins néanmoins qu'ils continuent à parcourir avec obstination et surtout avec détermination, à chaque fois pour faire advenir le vrai. Marc Doyer, vous êtes le porte-parole de Vérity France, vous êtes devenu brusquement un objet médiatique car au moment du Covid et de la vaccination obligatoire, enfin, ou quasi obligatoire, votre femme, Morissette, a été vaccinée et a développé une maladie de Creutzfeldt-Jakob qui vous semble être directement liée à cette injection, et vous vous battez depuis pour comprendre ce qui s'est passé, faire en sorte que le laboratoire Pfizer explique ce qu'il y a dans son vaccin. Bref, vous vous battez pour faire reconnaître qu'il y a des effets secondaires à ce vaccin dont on nous avait dit au départ, évidemment, qu'il était absolument parfait. On s'est rendu compte en France, en Europe, dans le monde, que les vaccins, notamment ceux de Pfizer, n'étaient pas forcément aussi parfaits qu'on nous l'avait raconté. La France a encore du mal à admettre, contrairement à d'autres pays où les effets secondaires sont mieux étudiés, la France a encore du mal à admettre que ces effets secondaires existent d'une part et qu'ils sont mortels d'autre part. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est... Au-delà de la mort de votre femme, vous a poussé à devenir un militant actif, car vous auriez pu, comme d'autres, évidemment être dévasté par cette mort et ne pas pour autant vous engager.
Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, déjà, je voudrais préciser à vos auditeurs que je suis tout sauf anti-vax, parce que j'ai été vacciné moi-même. Et puis si j'avais été anti-vax, en fait, j'aurais adoré être anti-vax, parce que mon épouse serait certainement encore là. Pourquoi ce combat? Mais parce qu'en fait, j'ai une envie de vérité, de justice. Alors, vous avez dit tout à l'heure que j'avais décidé que mon épouse était décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à cause du vaccin. En fait, non, je ne me suis pas réveillé moi un matin en disant « Tiens, Morissette, à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est à cause du vaccin. » C'est deux femmes médecins extraordinaires qui, par ailleurs, ont vacciné aussi des gens, donc n'étaient pas non plus anti-vax, qui, au fur et à mesure des jours qu'elles avaient à suivre Morissette, ont constaté qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait des choses qui étaient incompréhensibles. Ensuite, d'ailleurs, il y a eu le professeur Brandl, qui lui est plutôt pro-vax, et qui avait été interrogé sur une chaîne de télé un jour, à qui on avait demandé si c'était possible. Il avait dit ça a pu déclencher la maladie qu'elle avait en elle. Et le certificat de décès il signifiait que décès probablement d'origine iatrogène, donc c'était lié au vaccin. Moi, pourquoi je me suis levé, en fait, parce que d'abord, ce qui m'a complètement scandalisé, c'est d'entendre ce fameux bénéfice-risque. Je me suis dit, mais de quel droit, en fait, finalement, on va décider qu'on peut sacrifier telle ou telle personne? Qui sont ces gens pour dire, finalement, votre proche est malade, est décédé, mais vous savez, c'est bien, en fait, c'est le bénéfice-risque, ça a sauvé plein d'autres personnes, parce que dans les politiques, parce que ça a été des décisions politiques plutôt que des décisions médicales, en fait, cette affaire. C'est-à-dire que c'est le politique qui s'est mêlé de médecine alors qu'il n'en avait pas les compétences. Et ça m'a vraiment donné envie de dire, voyez, moi, je vais vous montrer tout au long des 8 mois où j'ai essayé de sauver mon épouse, je vais vous montrer ce que c'est le bénéfice-risque, en fait, pour moi. Alors, j'ai jamais montré des images directes de Morissette, parce que c'était pas juste pas possible. Pour la respecter principalement. Donc voilà, c'est un combat. Alors, bien sûr que je suis dévasté. Ma famille est dévastée, mon fils est dévasté. Là, à l'heure où je vous parle, je voudrais rendre hommage à Mélanie Maupas. C'est une jeune femme qui est décédée aujourd'hui. Elle avait 37 ans. Et depuis 4 ans, après vaccination, elle a déclenché la maladie de Charcot. Aujourd'hui, il y a maintenant des études, ça a même été reconnu, que ça avait déclenché des maladies de Charcot. Donc, cette jeune femme, elle est décédée, là. On parle pas de bénéfice-risque, c'est-à-dire que j'ai envie de dire aux politiques, à Emmanuel Macron le premier, d'ailleurs, c'était un peu le sujet de mon message. Je ne sais pas si vous aviez eu connaissance du message que je lui avais laissé, qui m'a valu une garde à vue et pas mal d'ennuis.
Vous lui avez laissé effectivement un message sur le répondeur de l'Élysée, voilà, qui a déclenché une garde à vue.
Sans aucune menace, parce que M. Macron a porté plainte pour menace de mort. Au bout de quelques heures, le parquet, constatant qu'il n'y avait pas de menace de mort, a décidé de me libérer pour infraction non caractérisée. Donc il n'y a pas mieux, en fait. Mais ma question, c'était, sur le message, je disais, mais qu'est-ce que vous attendez, en fait, pour déclencher une enquête pour les effets secondaires, reconnaître qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que vous attendez que ce que vous avez peut-être de plus cher au monde, à savoir votre femme, tombe elle-même malade? C'était, en fait, c'était symbolique, c'était une image. J'espérais à ce moment-là peut-être toucher un homme. Bon, depuis, je me suis rendu compte qu'il est tout sauf un homme, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. À Verity France, on reçoit plein de témoignages, encore tous les jours. Moi, vous savez, quand j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être médiatisé, ça m'a aidé. Les gens m'ont aidé. Parce que pendant 8 mois, je souhaite à personne ce que j'ai vécu. Pendant 8 mois, j'ai choisi, et je ne regrette pas d'ailleurs, de l'accompagner chez moi. Mais c'est une maladie, en fait, juste affreuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai vues que je n'aurais jamais dû voir. Et pendant ces 8 mois, en fait, j'ai reçu des témoignages aussi, qui à chaque fois me perturbaient, parce que c'était des gens qui avaient aussi déclenché la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était toujours environ 15 jours après avoir été vacciné. Il faut savoir que c'est une maladie extrêmement rare, c'est 1,5 cas sur 1 million, et que quand vous commencez à avoir déjà 50 cas comme j'ai eu, où à chaque fois la personne a déclenché après le vaccin, et pourquoi pas avant, hein, et environ dans les 15 jours, et aujourd'hui d'ailleurs on sait que pour d'autres maladies, bien souvent c'est survenu dans les 15 jours. Et un exemple que je prends souvent, mais tout ce que je vous dis là, en fait, moi c'est très factuel, parce que j'ai les documents, j'ai le dossier médical de chaque personne, les familles ont accepté de me les confier. Ça a donné lieu à une étude qui a été... c'est la dernière étude qu'a réalisée le professeur Luc Montagnier. Et dans cette étude, il y a une famille israélienne où là, c'est génétique, la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour cette famille. Il y a un frère qui a déclenché la maladie il y a 15 ans, donc rien à voir avec le vaccin. Malheureusement, il a été vacciné, Pfizer. 15 jours après, il a déclenché la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Souvent, j'ai alerté les autorités en disant, s'il vous plaît, regardez ce qui a pu se passer. Bon, la seule réponse que j'ai eue, c'est qu'on m'a envoyé 40 policiers à la maison. Et lors de ma garde à vue, d'ailleurs, au bout de quelques heures, une des femmes policiers qui m'interrogeait est venue me voir dans ma cellule, m'a dit, vous savez, monsieur Doyer, je comprends votre combat parce que je suis moi-même une victime. Et j'ai été hospitalisé pendant 3 semaines après avoir été vacciné. J'ai déclenché un effet secondaire. On était chez moi, il était 5 minutes après, j'avais un policier masqué qui me disait, ah mais je connais votre histoire, vous savez, depuis que je suis vacciné, moi j'ai des gros problèmes de tachycardie. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner tous les jours. Je ne suis pas complotiste, moi, en fait. J'essaie juste de savoir pourquoi mon épouse est décédée. Voyez,
voilà. Et justement, Marc Doyer, vous avez... bonsoir, d'ailleurs, aux auditeurs. Vous avez souvent évoqué le manque de reconnaissance, hein, on l'entend bien, des autorités sanitaires. Quels ont été les obstacles, à part ce dont vous venez de parler, les plus durs que vous avez rencontrés personnellement dans votre quête de justice?
Ma première... Alors, il se trouve que dans mon parcours d'homme, moi j'étais passionné par la politique et j'étais dans un mouvement citoyen et j'ai côtoyé des gens, dont des équipes d'Emmanuel Macron. Au début d'En Marche, où comme beaucoup, j'ai cru dans ce truc-là. Et bon, après, j'assume. Hein, j'assume toujours tout ce que je fais. Et il s'est trouvé que quand ma première démarche, quand mon épouse est tombée malade et qu'on m'a annoncé le terrible diagnostic, parce que vous allez faire un scanner, un IRM, et puis... aujourd'hui, maintenant, tout est dématérialisé. Et alors, l'horreur, c'est que vous n'avez même plus un homme, une femme en face de vous qui va vous dire « Bah écoutez, voilà, on pense qu'il y a ça, il y a une suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob. » Là, on a reçu un mail, j'ai ouvert, et il y avait écrit « Suspicion de CJ ». Et la CJ, je me dis « C'est quoi ce truc-là » Et donc j'ai fait, c'est vraiment sur Internet, c'est formidable Internet. Et j'ai tapé CJ et là j'ai vu Russell Jacob. Et je me rappelle toujours, Morissette était au fond, sur son lit, et elle a vu ma tête, elle parlait encore, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit non, rien, ça va, écoute. Et ma première démarche a été d'essayer de contacter Olivier Véran, parce que vraiment, j'ai regardé un peu partout. Et ça, j'ai des SMS d'un ami d'Olivier Véran, où je dis, écoute, j'ai trouvé, il y a des traitements, est-ce qu'on pourrait essayer, mais c'est pas en France, c'est pas forcément autorisé. Et la réponse qui m'a été faite, c'est Olivier Véran s'en charge, il regarde, il revient vers toi. C'était au moment des municipales. Quelques jours après, j'ai vu Olivier Véran qui faisait la fête avec d'autres politiques. Il pensait qu'aux municipales. Et en fait, j'ai jamais eu de réponse. Le mépris a commencé là. Quand un jour, Hanouna m'appelle en me disant, voilà, on va faire un débat avec Olivier Véran. Est-ce que vous accepteriez d'être face à lui? Mais je dis, ce serait formidable. Mais je dis, vous savez qu'il ne va jamais accepter. Et là, on me dit, non, mais c'est pas lui qui décide.
C'est Cyril Hanouna qui décide pour le ministre.
Voilà. Oui, voilà. Et là, on a annulé mon intervention 24 heures avant, je crois.
Oui, voilà,
J'ai su par des journalistes, parce que c'est un petit milieu, donc tout se dit, tout se sait, que en fait, c'était ces équipes qui avaient effectivement, d'Olivier, je parle, qui avaient empêché que je vienne. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas, mais comme c'était en direct et que j'avais le portable d'Olivier Véran, j'ai fait un tweet, j'ai dit, écoutez, voilà, moi je vous donne une formidable occasion, c'est poser en direct vos questions à Olivier Véran, directement. Et j'ai balancé le téléphone portable. Je voudrais essayer de rendre ces gens un peu plus humains, et surtout, En Marche, Emmanuel Macron, vous vous souvenez, c'était faire de la politique autrement, on veut être proche des gens, etc. Vous devez être proche des gens, mais donnez vos téléphones portables, ou achetez des portables où les gens peuvent vous appeler, vous poser des questions, leur faire part de leurs préoccupations. Ce serait ça, en fait, une politique moderne dans ce pays, il n'y en a pas. Tous les partis qu'on a là. Vous allez avoir un invité tout à l'heure, Nicolas Bay. J'ai interpellé le RN en leur disant, voilà, nous avons les contrats Pfizer. S'il vous plaît, regardez ce qui s'est passé, parce que c'est pas normal que les parlementaires, que les députés aient voté le pass vaccinal, parce que s'ils avaient eu connaissance des contrats, mais ils n'auraient pas pu voter ça. Je ne sais pas si vous voulez que je vous rappelle ce qu'il y a dans ces contrats, dans l'article 4, mais je vais le faire quand même. Le fabricant.
Juste avant, dites-nous comment vous avez fait pour vous les procurer, parce que on avait l'impression que c'était plus gardé que Fort Knox.
Très facilement, parce que avec Vérité France, nous étions dans une procédure à Liège et que il y avait la Hongrie, et en fait c'est la Hongrie qui a fourni les contrats. Donc c'est un contrat européen qui a été signé par la Commission européenne pour les différents pays. Et à un moment donné, le juge a demandé aux parties civiles si on voulait avoir accès aux pièces. Et Frédéric Beltrat, qui est le président de Vérité France, qui a perdu son fils, a dit oui, je veux les pièces. Et on a eu le contrat. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, devant un juge pour une autre affaire, j'ai voulu que ce soit officiel et j'ai lu l'article 4 pour que tout le monde comprenne bien que là, c'était qu'on ne m'accuse pas encore de complotisme, de fake news, etc. Et en fait, dans ces contrats, Pfizer lui-même dit... Nous ne connaissons pas l'efficacité. Nous ne connaissons pas les effets. Alors là, je ne vous parle pas d'effets secondaires. Les effets en général, c'est bien plus grave. Nous ne connaissons pas les effets secondaires à long terme. Nous ne sommes pas capables de sérialiser le produit. Je vous en passe, c'est des meilleurs. Ça, c'est quelques jours avant qu'Emmanuel Macron se présente à la télé et dise aux Français, vaccinez-vous, ça va vous protéger. Alors que ses équipes ou lui-même ont signé l'inverse dans les contrats. Je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Allez-y.
Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres structures, d'autres organismes à l'échelle européenne? Et si oui, comment est-ce que les États membres gèrent ça? Parce que j'ai l'impression que, par exemple, dans les pays nordiques, il me semble, plus de transparence sur les effets secondaires des vaccins.
Alors,
et de ce vaccin.
Non, on n'est pas vraiment en relation. Alors, c'est évident que, de toute façon, la France est un problème. Là, on s'aperçoit que même avec tout ce que j'annonce, qui, encore une fois, c'est du concret. Moi, je suis à la disposition des autorités. J'ai toujours été en disant, j'ai les éléments. Alors, vous imaginez bien qu'il se passe bien de me faire venir, parce qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on mette ça sur la table. Quand on a divulgué les contrats, on n'aurait pas dû le faire. Mais à un moment donné, moi, c'est comme si on me demande, j'entends des cris chez mon voisin, et je ne bouge pas, c'est pas possible. Là, c'est pour moi, c'était une question d'utilité publique. Je pouvais pas garder. On ne pouvait pas avec Frédéric Beltrat. On a réfléchi à ça, garder ça pour nous. Donc oui, ça bouge beaucoup plus dans d'autres pays, c'est évident. Aux États-Unis, par exemple, où on remet en question la technologie ARN, où vous apprenez quand même, je ne sais pas, et aucun des médias en ont parlé, que le laboratoire Bayer, Monsanto, a porté plainte contre Pfizer parce que Pfizer a détourné des brevets qui étaient destinés en fait aux plantes pour en faire des vaccins ARN. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de nous annoncer? On nous a vaccinés avec des produits qui étaient destinés pour de l'OGM. C'est incroyable, quoi, tout ça.
Alors, pour une note un peu plus positive, vous avez récemment annoncé une victoire importante dans votre procès contre Pfizer. Hein. Le tribunal a reconnu que le vaccin Covid-19 était encore en phase 3 d'essais cliniques lors de la vaccination massive. Ouais. Est-ce que vous pouvez, Marc Doyer, pouvez-vous nous expliquer en détail cette décision et pourquoi elle est explosive pour les victimes?
Alors, c'est un petit peu plus technique. Effectivement, la décision du tribunal fait qu'il y a là une reconnaissance de la responsabilité de Pfizer, France, Allemagne et États-Unis. Je suis le premier à avoir mis devant un tribunal Pfizer, États-Unis et Allemagne. Ce qui s'est passé, c'est que, comme d'habitude, ces gens-là ont essayé de se dédouaner et ils ont créé ce qu'on appelle un incident. Moi, je ne suis pas, je suis pas juriste, hein, mais je vais essayer de vous expliquer ça simplement. On va dire qu'ils ont fait comme un appel en disant...
Et pardonnez-moi, c'était devant quel tribunal?
C'est le tribunal de Paris.
Tribunal de Paris.
Oui. Et donc Pfizer dit... États-Unis et Allemagne disent non, mais nous, on n'y est pour rien. Nous avions terminé notre travail. Donc, vous vous trompez, en fait. C'est pas nous les responsables, c'est eux, c'est pas nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le tribunal a regardé toutes les pièces et a débouté Pfizer, États-Unis et Allemagne de cette demande en leur disant non, vous êtes responsable. Donc, maintenant, on va aller au fond. Et j'ai lu donc la lettre, le mail que m'a renvoyé mon avocat, qui lui dit que c'est une grande victoire parce que maintenant, il va y avoir une nouvelle ère juridique qui va s'ouvrir. D'abord, il va y avoir un vrai procès. Mm-hmm. Ce sera peut-être le premier qui ne sera pas classé sans suite, déjà pour le moment, parce que là, ça aurait pu être classé sans suite. Hein. Donc, c'est très important. Et effectivement, comme Pfizer, au moment des injections, était en phase 3 d'essais cliniques, ce qui est quand même incroyable aussi, j'aurais dit à vos auditeurs, que quand même, il faut se rendre compte que c'est la première fois en France où on nous prend vraiment là pour des cobayes, c'est encore pas du complotisme ce que je dis là, et qu'on nous vaccine avec un produit qui est encore en phase expérimentale quand même. Il faut que les gens mesurent un peu ce qui s'est passé. C'est très grave. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ça va être à Pfizer d'apporter la preuve finalement que quand vous avez un effet secondaire du vaccin, c'est pas le vaccin, puisqu'ils étaient en phase expérimentale. Mmh. Et c'est compliqué, ça va être compliqué pour eux. Et moi, j'espère gagner, j'espère que ça va faire jurisprudence, que ça va pouvoir réhabiliter, par exemple, les soignants qui ont été suspendus, ce qui est une horreur absolue, c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que vous avez un homme, Emmanuel Macron, qui a décidé de mettre des gens du jour au lendemain sans travail et sans un sou.
Pas que des soignants, d'ailleurs, parce que...
Oui, pas que les soignants, des pompiers,
il y a eu... tas de corps de métier... Voilà. Même dans l'enseignement plus ou moins proche, mais tout ce qui était aussi éducation, enfin le domaine des éducateurs spécialisés, alors le paramédical aussi, mais c'était très large comme suspension.
Et j'espère que ça va ouvrir une brèche, parce qu'effectivement, si je gagne, il y aura forcément jurisprudence. Et là, ça va donner l'occasion même à des victimes, à des familles de victimes, de pouvoir obtenir justice. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, normalement, il aurait dû avoir une commission d'enquête sur cette affaire du Covid. Ça a été réclamé par quelques hommes politiques courageux. Mais encore une fois, moi, les députés, vous allez en avoir un tout à l'heure, j'ai interrogé son groupe. Demandez-lui, quand ils ont voté le pass vaccinal, s'ils avaient connaissance de l'article 4 des contrats. Il n'aurait pas dû voter un pass vaccinal dans ces conditions-là. Alors, je ne sais pas si Nicolas Bay et le RN ont voté massivement.
À l'époque, il était Rassemblement National.
Ouais.
Il ne l'est plus.
Ouais.
Mais on pourra poser la question, de fait.
Vous menez ce combat judiciaire. Cette victoire importante que vous avez remportée avec le fait que le tribunal déboute Pfizer États-Unis et Pfizer Allemagne de leur réclamation de ne pas être jugé, ça date de quand?
Oh, ça date d'il y a 3 jours.
3 jours, voilà. Donc c'est vraiment, c'est tout frais, ouais, si j'ose dire.
C'est vendredi, ouais, voilà. J'ai appris ça
et
vendredi.
Quel est le calendrier judiciaire maintenant ?
Le calendrier judiciaire, c'est qu'au mois de mai, les deux parties doivent remettre leur conclusion. Ensuite, bah, vous savez, c'est encore le temps de la justice, mais mon avocat me dit, donc mon avocat c'est Maître Ludo, qui est spécialiste en problèmes liés à la vaccination, et il me dit que ça va maintenant aller vite. Donc je fais confiance à mon avocat. Jusqu'à maintenant, j'ai eu raison de lui faire confiance.
Et comment ça pourrait changer la donne pour d'autres plaintes en France et en Europe ?
Ah bah parce que vous imaginez bien que si on fait condamner Pfizer, il va y avoir jurisprudence. Et je pense qu'ils doivent avoir peur de ça. Et je pense qu'ils ont raison d'avoir peur de ça.
Et parmi les témoignages que vous recevez, c'est uniquement des personnes qui ont été vaccinées pour Covid-19 ? Ou c'est aussi des témoignages antécédents, par exemple la grippe H1N1 qui non. Est plus enterrée.
Non, c'est 2010, essentiellement 2011. Covid-19.
Covid-19.
Pour vous donner un exemple, vendredi, donc, j'ai fait une vidéo sur Twitter, enfin X maintenant, qui maintenant est presque à 1 million de vues. Là. Y a eu énormément de mails reçus sur l'adresse mail de l'association, parce que ça a donné vraiment un véritable espoir.
Oui, des gens qui recoupent en fin de compte voilà, des informations et se disent « mais je vis la même chose ».
Mais vous savez, moi j'ai toujours mené ce combat avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. vous ne m'entendrez jamais dire « tous les maux, toutes les maladies qu'on rencontre aujourd'hui sont liées à la vaccination ». Mais de là à dire, comme l'a dit l'avant-dernier ministre de la Santé, je ne sais plus si l'avant-dernier, il y en a eu tellement, qui a eu le culot de dire « il n'y a pas d'effet secondaire ». Moi, je n'irais pas dire que toutes les maladies aujourd'hui, forcément, sont responsables du vaccin. Mais il y a beaucoup de problèmes. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans des conversations, même pas forcément avec des gens qui me connaissent, mais quand on commence à aborder le sujet du Covid, de la vaccination, d'abord, vous avez beaucoup de gens qui vous disent « ah oui, le Covid, ça a changé la société ». Ça, je pense que nos politiques devraient s'en inquiéter. Et beaucoup, « ah oui, depuis que je suis vacciné, j'ai des petits trucs bizarres. » Mais ce n'est pas moi, en fait, qui vais les voir en disant « ouais, alors, vous avez eu des problèmes avec le vaccin. » Non, non, c'est spontanément. Je comprends que les autorités qui ont voulu vacciner en masse sans prendre trop de précautions n'aient pas du tout envie qu'il y ait un débat sur ce sujet. Mais ils ne vont pas y couper, en fait. Ça va être intergénérationnel, ce combat. J'espère le mener jusqu'au bout, mais mon fils a été touché, mais je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres fils de victimes. Il y a des, vous voyez, cette jeune femme de 37 ans. 37 ans, on ne meurt pas à 37 ans. Une maladie de Charcot. Donc, ça va durer, je pense, encore des années. Voilà. C'est comme ça.
Et Pfizer a tenté de se défausser sur l'État français. Comment réagissez-vous à cela et quelles sont les prochaines étapes de votre procédure judiciaire ?
Bah comme je vous l'ai dit là, au mois de mai, bon, il va y avoir des conclusions. Mon avocat va plaider. Si ça ne marche pas ce coup-là, j'essaierai le coup prochain.
En fait, quand vous dites que Pfizer a essayé de se défausser sur l'État français, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Bah, ça veut dire qu'il a essayé de...
C'était la liberté de l'État français, en fin
liberté
de compte.
De l'État français.
Le laboratoire propose, voilà. Mais n'impose pas. Et à l'État membre, ensuite, de choisir si oui ou non, il impose la vaccination.
Et ça, c'est un raisonnement que vous trouvez valable de la part du laboratoire ?
Bah non, parce que maintenant que je connais le contenu des contrats, je veux dire, ces gens sont des menteurs. Ils sont là essentiellement pour... Vous savez, en fait, Pfizer, voilà, c'est une société commerciale, ils sont là pour gagner de l'argent. Non, bien sûr que je ne trouve pas ça normal.
Il n'y a pas que Pfizer.
Là, en l'occurrence, on est en train de parler du vaccin Pfizer et donc de la firme Pfizer. Vous avez été en butte, évidemment, à l'incompréhension des politiques, au fait que les politiques ne voulaient pas parler avec vous. Il y a aussi une autre incompréhension, selon moi, c'est que dans le monde entier, maintenant, on commence à parler des effets secondaires. Est-ce que la France reste un cas à part ?
Bah, visiblement, oui. Ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus.
Parce que voilà, parce que vous n'êtes pas le seul. Est-ce que Verity France est en contact avec des associations identiques d'autres pays ?
Dans d'autres pays, non. Mais en France, toutes les associations, je pense à Où est mon cycle, Il y a eu énormément de femmes qui ont eu des problèmes suite à la vaccination. Ils rencontrent les mêmes problèmes. Et vous savez, en fait, c'est politique. C'est lié vraiment à l'équipe politique. Ces gens-là, en fait, Emmanuel Macron, le premier, a menti. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Raoult, qui me racontait une réunion à laquelle il... Parce qu'au début, il faut pas oublier qu'avant d'être aussi, lui, traité de complotiste, on l'avait fait venir comme étant comme un spécialiste.
On l'a reçu il n'y a pas longtemps.
Et il faisait partie, voilà. Et il m'explique un jour qu'il est là dans une réunion et qu'il y a Emmanuel Macron, d'autres. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive, un patron de labo, qui pose une boîte sur la table et qui dit, voilà, le traitement contre le Covid, ce sera ça. Et Emmanuel Macron, il est là, il baisse la tête. Et ça a été ça. Bon, c'est le fameux médicament qui coûtait une fortune et qui n'a pas marché, en plus. Paxlovid, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est en France un problème politique. C'est-à-dire qu'en fait, Olivier Véran, pour parler que lui, par rapport à la décision qui vient d'être rendue, où on reconnaît qu'on a injecté les gens en phase expérimentale, il est devant la télé et il déclare non, c'est fini, c'est plus en phase 3.
Non,
c'est en 2021. En fait, c'est un manchon énorme. Plus c'est gros et plus ça passe. Donc, c'est pour ça, je pense, qu'en France, ils sont tellement mouillés, ils ont tellement menti, et beaucoup de journalistes, ou beaucoup de médias, vous vous rendez compte que là, sur cette décision, 1 million de vues sur Twitter, c'est quand même pas anodin. Ça a été repris sur Facebook, ça a été repris partout. Il n'y a pas un média qui en a parlé, à part des gens comme vous, mais je vous mets pas, non, je vous considère pas comme des...
Bah, on est des médias, mais on n'est pas des médias grand public.
Voilà, voilà. Mais vous vous rendez compte que, par contre, quand on est venu chez moi, avec oui, on a trouvé des armes, oui, forcément, je suis chasseur, il y a des armes, mais j'ai tué personne. Ça a fait la une des journaux complotistes.
Ça a surtout fait la une des journaux plutôt de gauche, d'ailleurs. Oui, les articles que j'ai lus sont dans Libération, principalement.
Mais ils oubliaient juste de dire que... il n'y avait pas de menace de mort et que ça avait été classé sans suite par le parquet de Paris pour infraction non caractérisée. Vous imaginez bien que si j'avais vraiment menacé le président de la République, déjà d'une part, ils ont quand même mis 15 jours avant de venir chez moi. Donc j'avais quand même le temps de mettre mes menaces à exécution. Et puis surtout, au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'il n'y avait rien, quoi. Mais c'est la marque de fabrique de cet exécutif actuel. C'est-à-dire Macron et ses sbires, j'assume le terme là, qui est lourd. C'est, comment dire, je vais rester poli parce que... Mais c'est des gens qui sont malhonnêtes en fait, voilà, c'est tout.
Il y a tous les effets secondaires dont vous, évidemment, vous êtes au premier rang... Pour en parler, la maladie Creutzfeldt-Jakob, il y a aussi d'autres types de maladies qui ont été développées. Vous parliez de ce site Où est mon cycle, là, qui parle de tous ces problèmes menstruels et liés à la fertilité ou à l'infertilité des jeunes femmes, des jeunes filles de 15 ans qui se retrouvent ménopausées, et au contraire des femmes beaucoup plus âgées qui se retrouvent brusquement menstruées alors que ça n'en était pas arrivé. Comment réagissez-vous quand on entend qu'il y a des campagnes de vaccination en ce moment à destination des personnes âgées en expliquant qu'il faut absolument que ces gens-là se vaccinent et, puisque évidemment le Covid on ne fait plus la une des journaux en tant que tel, mais évidemment le virus continue à courir comme tous les virus de son espèce et donc on continue à être exposé à un virus même si plus personne ne nous demande aujourd'hui de porter un masque ou de rester assis dans les restaurants.
Oui, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'hécatombe. Hein. Il n'y a pas eu de nouvelle hécatombe. Et comment j'ai réagi, en fait, si vous voulez, je pense que c'est le seul moyen que les laboratoires ont trouvé pour justement tenir les médias. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec eux, ils leur proposent des contrats publicitaires, on sait comment ça fonctionne. Hein. Et forcément, vous savez, je peux citer une radio parisienne, parce que tous les matins, ça me rend dingue, en fait. Je vais vous parler de Nostalgie. Radio Nostalgie.
Mais la radio qu'on écoute tous quand on part en voiture en vacances. Hein.
Voilà. Et ben, en ce moment, vous avez un spot publicitaire où on vante la vaccination, je crois, grippe, ou enfin peu importe, c'est pas vraiment le sujet. Et à la fin, vous avez un spot qui dit « Ce spot vous est recommandé par la société Pfizer, machin truc. » Waouh, c'est une horreur. Alors que moi, en ce moment... Depuis des mois, je dis, il y a un problème, regardez ce qui était écrit dans les contrats. Ces gens ont menti quand même. Parce que dans le même temps, ils demandaient aux politiques de dire que le vaccin était efficace. Et là, j'obtiens une décision où finalement, on dit oui, c'est en phase expérimentale. Ah oui, et puis alors une chose, les seules critiques que j'ai reçues depuis 48 heures sur ma vidéo, c'est de dire, mais non, mais on le savait. Hein. On le savait que c'était en phase expérimentale. Oui. C'était écrit dans les documents. Mm-hmm. Ah bon ? Mais alors, monsieur Macron, quand vous vous présentez devant les Français, pourquoi vous ne dites pas, bon, vous savez, ça va vous protéger, mais quand même, c'est un vaccin expérimental. Je n'ai pas entendu ça. Et moi, quand je suis allé au vaccinodrome avec Morissette, à l'entrée, il n'y avait pas écrit attention, vaccin expérimental. Et surtout, je me souviens très bien, nous, on a demandé à voir le médecin avant d'être vacciné. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a des choses particulières ? Non, non, tout va bien, écoutez, voilà, on va vous vacciner, puis on va vous surveiller pendant 10 minutes. Mais là, c'est du concret et du factuel. J'aimerais bien avoir une réponse. Je voudrais savoir si vous interrogez vos auditeurs, si on leur avait montré les contrats, et si on leur avait dit que le vaccin était en phase expérimentale. Dans ceux qui sont allés se faire vacciner comme moi. Mais moi, je peux vous assurer que j'aurais fait demi-tour, en fait. J'aurais aimé être informé. Donc, c'est ça aussi qui me rend, qui me scandalise dans les spots actuels des laboratoires comme Pfizer et d'autres. C'est oui, qu'en fait, ces gens...
Vous dites informé, vous dites même pas mieux informé.
Mais informé, parce que le libre, voilà, libre choix éclairé, c'est ça, c'est d'être informé.
Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire que tout ça, en plus, touche à votre... Enfin, à notre liberté en général. En fait, ça touche à notre possibilité de discerner. Et j'ai souvenir que toute la campagne de communication en 2020 du gouvernement, les mots étaient très durs, étaient très forts. Nous sommes en guerre. Il y avait un champ lexical utilisé qui était extrêmement violent, qui en venait à nous faire culpabiliser. Il y avait le devoir civique. Il y avait... Non, c'était pas civique, c'était devoir citoyen. C'était des mots très forts.
Et le pape François parlait d'actes d'amour.
Donc on avait la guerre d'un côté, le pacte d'amour de l'autre. C'était des termes très forts qui, en fait, venaient à faire culpabiliser les Français et donc se dire, mais je n'ai pas le choix, je dois me faire vacciner.
Bah, c'est ça. Et est-ce que vous imaginez que Emmanuel Macron ait pu se faire vacciner lui-même alors qu'ils avaient connaissance des contrats Pfizer?
C'est vrai qu'on n'a pas vu. On a vu Olivier Véran être vacciné là avec la chemise
mais imaginez-vous.
Ouverte. Mais imaginez-vous. Non, on n'a pas vu.
C'est impossible que son médecin personnel lui ait fait prendre ce risque. Alors qu'on leur dit qu'on ne connaît pas l'efficacité, qu'on ne connaît pas les effets, qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Et vous voyez le président de la République se faire vacciner. Bon, il a menti aux Français. Un député, ex-député d'ailleurs... j'ai perdu son nom, qui est vers le Pays Basque avec un accent. Lassalle, Jean Lassalle. L'a dit. Ce que j'ai regretté, moi, c'est que Jean Lassalle a dit j'ai les preuves et il n'a jamais voulu sortir les preuves. Ce n'était pas le moment. Mais voilà. C'est pour ça que, en fait, moi, je trace ma route avec Frédéric Beltras. On a cette ligne de conduite parce que maintenant, on récolte des éléments et nous savons exactement où nous voulons aller. Après, les états d'âme des uns des autres, les attaques, les choses, on est habitué, en fait. Je dirais que malheureusement, c'est devenu notre quotidien de se faire traiter d'antivax, de complotistes. De toute façon, ça ne nous est pas réservé à nous. Dès qu'aujourd'hui, actuellement, dans ce pays, vous essayez d'avoir une volonté d'avoir un peu de débat, de vouloir... Bon, bah, on vous traite de complotistes, de pro-russes. Enfin, bon, c'est...
Et Marc Doyer, Verity France, est-elle d'autres familles à porter plainte? Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui suspectent un lien entre le vaccin et un problème de santé?
De faire comme moi, en fait, de faire appel à des avocats spécialisés et de déposer plainte. Oui, bien sûr, il y a d'autres dépôts de plainte chez Verity France, à commencer par Frédéric Beltras. Frédéric Beltras... moi, j'ai vraiment une pensée pour eux parce que, avec sa femme Aurélie, ils ont vu leur fils mourir dans leur salon violemment, en quelques heures. Je ne sais pas si je peux essayer encore aujourd'hui d'essayer de toucher le politique juste pour leur dire, écoutez, mais peut-être à la limite, on se trompe, mais au moins recevez-nous, acceptez ce débat. Moi, vous savez, j'ai des mots qui vont me rester ancrés à jamais dans la tête, c'est ceux de Frédéric Beltras qui, un jour au téléphone, m'a dit, tu sais, quand je savais que mon fils était décédé, mais je l'ai serré contre moi dans le camion des pompiers parce que je voulais sentir la chaleur de son corps le maximum de temps. Un père, quand il vous dit ça, mais ça devrait bouleverser n'importe qui. Je veux dire, il y a eu plein de cas comme ça. Encore une fois, Mélanie Maupa, je l'ai rencontrée, cette femme est extrêmement courageuse. Elle aimait la vie plus que tout. Là, on le sait aujourd'hui que ça a déclenché les maladies de Charcot. Ça fait partie des maladies qui sont reconnues comme étant... Non. C'est pas anodin, on peut pas parler de bénéfice-risque là maintenant.
Elle avait un parrain d'ailleurs de mémoire.
Oui, oui, elle avait un parrain bien sûr. Oui.
Alors, vous parlez de cette association Vérité France dont vous êtes le porte-parole et un des auditeurs de Radio Courtoisie voudrait savoir comment vous contacter. Je crois que le meilleur conseil que vous pouvez lui donner c'est de contacter d'abord Vérité France.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc ça, il y a un site Vérité France.
Oui, alors je suis désolé, je suis pas organisé. Bah,
mais il suffit de taper Vérité, V-E-R-I-T-Y, oui. France, oui. Et on tombe sur le oui. site de l'association.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà, et donc là, on peut effectivement, dialoguer avec les outils numériques qui sont en place. Sur Olivier Véran, Emmanuel Macron, vous avez des mots assez durs, évidemment, sur... Est-ce que vous... Vous avez l'impression que la France a un peu changé de politique sanitaire, que la manière de valider les médicaments a changé. Parce que la France avait la réputation d'être extrêmement scrupuleuse avec l'Agence française du médicament sur l'ensemble des processus qui permettent de mettre une molécule sur le marché.
Alors, j'ai pas les compétences pour répondre à ces questions, mais j'ai l'impression quand même que... Et là, le problème, c'est que quand le politique se mêle à ça, et ce qui s'est passé là avec le Covid, c'est quand même qu'il y a eu des décisions politiques, et qu'en plus, vous avez des laboratoires qui se sont d'un seul coup vus pouvoir vacciner des milliards de personnes, en fait, dans le monde. Mmh. Donc forcément, là, je pense que ça a tourné la tête à beaucoup de gens, et que c'est pour ça qu'il y a eu moins de respect des règles. J'aurais tendance à avoir toujours confiance dans la France et dans ses institutions, dans le politique, non. Mais pas dans tous, forcément, je ne vais pas faire une généralité, mais quand même, globalement, je n'ai pas confiance dans le politique parce que nous les avons tous interpellés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y en a pas un qui a osé, ou quelques-uns. Vous avez M. Dupont-Aignan, Florian Philippot, j'en oubliais, il y a Mme Joron.
Virginie Joron, qui est
Virginie Joron. Il y en a d'autres, mais c'est très...
Oui, c'est une petite poignée par rapport aux centaines de députés qu'on engraisse.
Vous savez, je me souviens une fois, alors, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais dans le public, et il se trouve que M. Juvin, que vous devez connaître,
Philippe Juvin,
qu'on entend en ce moment sur la fin de vie, et d'ailleurs je suis assez d'accord avec lui, je veux dire, c'est quand même un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de prudence. Moi je me souviens de ma belle-mère qui avait été opérée à cœur ouvert et qui voulait mourir et puis derrière elle a vécu 15 ans de plus mais sur le moment elle avait tellement mal qu'elle voulait qu'on abrège ses souffrances et je pense que le rôle du médecin c'est de soigner aussi bon. Et monsieur Juvin je le vois arriver et il se trouve qu'on avait une amie en commun donc j'espère qu'il va entendre mon message et je lui dis voilà je suis le mari de Mauricette Doyer vous savez elle a développé une maladie de Creutzfeldt-Jakob et il me dit ah oui mais il dit vous savez on est au courant que ça déclenche des encéphalopathies. Et il me dit comment elle va. Bah, je lui dis, elle est décédée. Donc vous voyez, j'aimerais que des gens comme ça aient le courage de dire les choses. Voilà. On m'a obligé à voir un psychiatre il y a un mois et demi pour aller récupérer mes armes de chasse. Parce que vous avez le patron de la police judiciaire qui, certainement suite à des ordres, a écrit à la préfète de l'Oise en disant que je représentais un danger à l'ordre public. Mais je n'ai pas vu de psychiatre à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont décidé... Comme à un moment donné, Olivier Véran a décidé de suspendre Amine Ulmine, un pharmacien, à qui je voudrais rendre aussi hommage aujourd'hui, qui a été reçu au Sénat avec moi. Il y avait une commission d'enquête. C'est Olivier Véran qui a donné des ordres pour qu'on fasse perdre son emploi à cet homme-là. Il y a plein de gens. Quand je suis allé voir un psychiatre, le psychiatre, au bout de 10 minutes, il me disait « Non, mais vous savez, bon, je connais bien le problème. » Depuis le Covid, on a des gros problèmes avec les jeunes. Et puis moi-même, mon fils a eu des soucis. Et je lui dis, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Il me dit, mais parce que, monsieur Doyer, si j'en parle, vous voyez, déjà, j'ai été rétrogradé. J'étais chef de service ici. On m'a rétrogradé parce que pendant le Covid, j'ai osé en parler. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux médecins parce que forcément, des médecins traitants, ils voient les problèmes. Il y en a, on le sait très bien qu'il y a des médecins qui reconnaissent. Bon, ils ont peur mais, de l'ordre des médecins, mais Est-ce qu'on attend que, comme l'a dit le professeur Raoult, dans quelques années, il y ait une recrudescence de maladies, de telle ou telle maladie? Je pense que là, pour tout le monde, pour apaiser les choses et surtout pour redonner confiance aux Français. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, à chaque fois qu'il y a une campagne maintenant de vaccination, les gens n'y vont pas. Mais ils n'y vont pas à cause de Marc Doyer. Hein. Ils n'y vont pas parce que forcément, ils ont été vaccinés des fois une dizaine de fois presque. Et ils ont quand même eu la maladie. Alors on vous dit, oui, mais ça a évité les formes graves. Mais ça, c'est pareil. D'un seul coup, il y a un zozo là-dedans qui a inventé le truc. Oui, ça a évité les formes graves.
Oui, parce que rappelons qu'au début, c'était censé éviter qu'on l'attrape. Mmh. Ensuite, c'était censé éviter qu'on le transmette.
Et enfin, les formes graves.
Voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on était capable de l'attraper. On s'est rendu compte qu'on était capable de le transmettre malgré les vaccins. Voilà. Donc... Est-ce que, il faut que je fasse un effort et je présente mes excuses publiques à l'auditeur qui me dit vous passez votre vie à dire est-ce que vous cactez, c'est extrêmement laid. Voilà, donc je vais essayer de ne plus cacter. Les politiques sur cette histoire de vaccin vous ont déçu parce qu'ils ne vous ont mal informé, parce qu'ils ne vous ont pas écouté. Vous paraissent-ils être plus compétents dans d'autres domaines où cette défiance vous paraît-elle avoir, au moins pour vous, contaminé, si j'ose dire, l'ensemble de la manière dont vous regardez les politiques?
Vous avez vu l'état de la France actuellement, et puis le peu de gens qui continuent d'aller voter. Je crois que vous avez la réponse. Malheureusement, c'est une horreur pour moi de faire ce constat. Parce que la politique, finalement... c'est quelque chose de fort et important. C'est s'occuper des gens, c'est la vie de la cité. Je veux dire, c'est quelque chose de noble, la politique, normalement. Mais malheureusement, je vais vous parler de corruption. C'est pas moi qui l'invente aussi. Tous les jours, on entend parler de corruption. Mm-hmm. On entend parler de drogue. Là, il y a l'affaire qui nous vient des États-Unis où vous avez Emmanuel Macron qui dit « ça ne concernera pas la France ». Et puis, on s'aperçoit que si. Donc, comment voulez-vous que les gens aient confiance? Des jeunes, quand vous avez un politique, quand on leur dit il faut être rigoureux, vous devez respecter les règles, et puis qu'on apprend que tel ou tel politique a fait ça ou ça, je veux dire, c'est un problème.
Justement, pardon Marc, avec les élections européennes en vue, pensez-vous que le sujet des vaccins Covid-19 pourrait influencer le débat public, surtout avec des mouvements comme les Gilets jaunes dont vous avez fait partie autrefois?
Les élections présidentielles, vous voulez dire
européennes, excusez-moi. Ah.
D'accord.
Enfin, bon, vous avez compris le sens de la question, de toute façon.
Mais, je vais vous dire, j'ai rencontré Xavier Bertrand, qui est régulièrement candidat à la présidentielle. J'ai pu discuter avec lui. Mmh. Je lui ai dit, j'ai les contrats, nous avons les contrats Pfizer. Il y a un article extrêmement grave. Il m'a dit, il a fait venir un de ses collaborateurs qui était là avec lui, il m'a dit, écoutez, prenez ses coordonnées. Ils m'ont contacté. Ils m'ont parlé au téléphone, je leur ai expliqué, en disant « voilà, on a tout à disposition ». Ils m'ont jamais rappelé. C'est un sujet, je pense, qui leur fait peur. Et comme ils sont tous en campagne, ils ne veulent pas en parler. J'ai rencontré cette jeune femme qui est candidate à la mairie de Paris, aidez-moi.
Sarah Knafo,
qui pourtant me paraît très bien, et avec qui j'avais échangé sur X, et qui était sensible à mon problème. Je l'ai rencontré, et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, écoutez, on a les contrats, je voudrais vous en parler. Envoyez-moi un mail, elle m'a jamais rappelé, parce que j'apprends quelques jours après qu'elle est en campagne pour Paris. C'est un sujet qui leur fait peur, en fait. Ils ont peur d'être traités de complotistes, surtout ils ont peur du jour au lendemain, ils ne seront plus reçus dans les médias. Moi, j'ai décidé avec Frédéric Beltrat, si ça ne bouge pas, pour les présidentielles, nous, on va bouger. On va essayer d'aller au-devant des Français avec les éléments. Mm-hmm. Alors, nous avons les contrats. Moi, j'avais l'idée de dire, tant pis, je vais battre le pavé et puis je vais aller à la rencontre des gens. On va se passer des médias, on va se passer des réseaux sociaux, puisque M. Macron veut interdire les réseaux sociaux, mais je le mets en garde de faire ça, parce que de toute façon, on trouvera d'autres alternatives aux réseaux sociaux. On est capable aujourd'hui d'imprimer des tracts, d'organiser des équipes pour distribuer partout en France. Et on va le faire pendant les présidentielles à ce moment-là. Et là, concrètement, nous imprimons et nous mettrons les contrats et on fera constater par huissier que ce sont des documents sérieux. et on va essayer d'informer un maximum de Français, si le politique ne le fait pas.
Mais finalement, vous avez déclaré que votre famille continuera le combat sur des générations si nécessaire. Quels sont vos projets immédiats là, pour Verity France en 2026 pourquoi est-il si crucial, selon vous, de ne pas oublier cette page de l'histoire récente? Et comment chacun peut contribuer à la vérité?
Déjà, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que les médecins, les policiers, les politiques, les journalistes, vous en avez quelques-uns qui ont commencé à dire « Ah oui, je pense à Christine Kelly qui disait « Oui, on pouvait parler de tout sauf du Covid et des effets secondaires ». Je pense à des artistes comme Patrick Sébastien qui veut faire de la politique. Là. Il a eu lui-même des effets secondaires, mais simplement, il en a parlé un tout petit peu. Après, il s'est rendu compte comment participer, mais oser parler. Plus nous serons nombreux à parler, il ne s'agit pas d'attaquer, d'être agressif. Il s'agit de lancer le débat. Je veux dire, on doit ça aux victimes et aux familles de victimes. Moi, ma vie, elle est foutue aujourd'hui. J'essaye de survivre, en fait. Alors ça fait pas plaisir aux gens qui m'aiment quand je dis ça, mais j'en suis désolé, je m'en excuse aujourd'hui, mais c'est la réalité. Je veux dire, j'essaie de me reconstruire comme je peux. J'ai un fils, une petite fille qui est adorable, qui me demande « Et Manou, pourquoi elle est partie, Manou ?» C'est difficile, mais je suis pas le seul. Frédéric Beltra, son fils avait 22 ans. Il y en a d'autres, des cas comme ça. Il y a un jeune qui s'appelle... Anthony Rio, c'était reconnu, lui. C'est-à-dire que pendant des mois, on l'a traité de sa famille de complotiste. Et puis, d'un seul coup, du jour au lendemain, le décès a été reconnu comme étant un décès lié à un effet secondaire du vaccin. Mais les mêmes médias qu'on salit toute sa famille n'en ont pas parlé. Donc, là, vous me posez une question, elle est formidable, votre question. Mais je doute qu'il y ait encore assez de courage dans ce pays. Je vous dis, je vous ai cité les quelques politiques qui se lancent là dans les campagnes. Présidentielle, ils vont éviter de parler de ce sujet, parce que ça reviendrait à dire quoi? Ça reviendrait à dire, finalement, on a vacciné toute la population avec des produits dont on ne connaissait pas les effets. C'est chaud, hein. Ça veut dire que j'espère que le professeur Luc Montagné se trompait. Moi, il me disait que sur le long terme, ça allait être catastrophique. Par exemple, pour les maladies à prion. Sincèrement, j'espère qu'il s'est trompé. Moi, j'ai vécu 8 mois avec une maladie à prion dans mon salon. Je souhaite ça à personne, même pas à Emmanuel Macron. Alors, ça va peut-être en faire bondir, mais moi, mon combat, il n'est pas ni dans la menace, ni dans la haine, ni dans la rancœur. Il est factuel. C'est-à-dire que je sais où je veux aller et j'irai au bout. Donc, voilà.
Dans ce que vous dites, il y a quand même la question de la responsabilité des politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, à un moment donné, voulait faire une réforme constitutionnelle et... le débat à ce moment-là était d'inscrire dans la Constitution que le président de la République est responsable. Et donc Nicolas Sarkozy commence sa réforme constitutionnelle et l'un des trucs qui a été totalement évacué, c'est la responsabilité du président de la République. Et en fait, donc le président de la République est en soi irresponsable. Et donc on a l'impression que les politiques sont irresponsables. Et comment faire pour les rendre responsables? Et même les rendre vraiment responsables. On se souvient que dans l'affaire du sang contaminé, Georgina Dufoy avait dit qu'elle était responsable mais pas coupable. Il est là aussi ce scandale. Non seulement nous n'avons pas été informés, non seulement nous ne sommes pas crus alors que les preuves scientifiques s'accumulent du fait que, bien sûr, il y a des effets secondaires, et ça ne signifie pas que, tout, comme vous l'avez très justement souligné, que toutes les maladies sont dues à ces injections, mais en plus, ceux qui ont décidé pour nous sont hors d'atteinte.
Oui, ça dure longtemps, et ça dure depuis longtemps. Regardez l'affaire Jacques Lang. Il est sous protection policière. Alors que tout le monde vous dit « Ah oui, non, mais nous, on le savait ». Rien que quelque chose qui devrait choquer tout le monde. On apprend quand même, alors par l'ancien président de Canal+, donc je pense que M. Lescure, c'est pas un complotiste, qui dit « Ah oui, mais nous, on l'invitait plus au Festival de Cannes parce qu'il laissait des ardoises dans tous les hôtels du coin ». C'est-à-dire que le type, il est élu, il a vécu au Crochet des Français toute sa vie, et en plus, il paye pas ses notes de restaurant, il paye pas ses notes d'hôtel. Il laisse des ardoises à des traiteurs. Et aujourd'hui, il est accusé quand même de choses graves, il y a des témoignages, et on dit oui, mais on le savait, de toute façon, on le savait. Et il est sous protection policière. Les victimes, elles ne sont pas sous protection policière, en fait. Elles. Donc, comment rendre les hommes politiques responsables?
Alors, vous parliez tout à l'heure, enfin, vous brièvement, vous avez évoqué cette volonté d'ouvrir une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait voir le jour? Est-ce que vous avez interpellé des politiques dans ce but d'ouvrir une commission d'enquête? Est-ce que, par exemple, justement, un Philippe Juvin, lorsque le texte sur la fin de vie qui est en train d'être voté sera clôturé, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait?
Il faudrait poser la question à lui, mais bien sûr que je les ai tous interpellés, j'arrête pas. Ça fait des mois que je balance cet article 4 dès que je peux le faire sur Twitter, sur des comptes de politique, sur en réaction pour tout. Et bien sûr, à nombreuses reprises. Le seul qui a demandé une commission d'enquête, c'est M. Dupont-Aignan, quand il était député à plusieurs reprises. Florian Philippot aussi a évoqué le sujet, mais il est pas député. Je ne sais pas quoi vous dire. Je reviens quand même sur comment rendre des hommes politiques responsables, en fait. C'est une question grave. Mais moi, je vais vous donner une réponse, en fait. Bah, déjà, quand, entre guillemets, qu'il y ait des vraies peines, qu'ils soient punis, je ne veux pas dire les mettre en prison, ils ne méritent pas tous d'être en prison, mais au moins quand ils commettent des délits, bah, qu'ils soient inéligibles, vraiment, qu'ils se retrouvent à être traités comme injusticiables ordinaires, comme le commun des Français, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, s'il y avait des vraies condamnations, et puis...
Des vraies enquêtes, surtout, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément un délit, mais c'est une espèce de faute publique, une faute par rapport à la chose publique. En fait, on est en train de dire, est-ce que le code pénal a prévu qu'en fait, il y a telle ou telle infraction? Mais en fait, non, il faudrait que le politique soit responsable. C'est-à-dire, j'ai décidé telle action, cette action a entraîné telle conséquence. Eh ben justement, donc ces conséquences, en fait, ont été néfastes et je dois en répondre devant la nation. J'ai pas besoin d'appeler ça un crime ou un délit d'une certaine manière. J'ai besoin effectivement que que l'Assemblée nationale lance des commissions d'enquête et qu'elle prononce des choses fortes. Là, tout ce qui a été fait depuis 2020, il y a eu effectivement des discussions entre parlementaires et à chaque fois, non, personne n'était coupable. Toutes les actions en justice ont été déclarées non recevables. En fait, les politiques se sont exonérés eux-mêmes.
Mais c'est une question de morale.
Et effectivement, on est mal barré là.
Bah voilà, malheureusement, encore une fois, je vais pas les mettre tous dans le même panier, mais beaucoup n'en ont pas. Beaucoup, c'est quand même un constat que vous faites, que vos confrères font, même dans les plus grands médias, ces gens-là, en fait, ils ne sont pas là pour l'intérêt général, ils sont là avant tout pour leur carrière. Et ça, malheureusement, bah, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que quand, moi, je ne fais pas ça pour l'argent, hein. On m'a accusé de faire des cagnottes la dernière fois, ah bah tiens, il va encore faire une cagnotte, il pourra partir en vacances. Mais moi, je paye mes frais d'avocat, hein. Je suis transparent, hein, je peux tout montrer. Hein. Pour le moment, ça me coûte plutôt de l'argent, c'est-à-dire que ça ne m'en rapporte pas. Et je fais ça parce que, d'abord, pour aider mon prochain, j'espère que mon combat, et quand je reçois des messages me disant merci, vous nous donnez de l'espoir, voilà, bah, je suis content d'arriver à ça. Et puis parce que j'ai horreur de l'injustice, mais malheureusement, les politiques aujourd'hui, ils sont pas de moralité, c'est une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que ce pays va mal, donc pour plein d'autres sujets. Et c'est pour ça que les gens ne votent plus. Et ça, c'est dramatique parce que de toute façon, on se retrouve à la tête du pays avec des incompétents. Parce que les gens, ça fait des années maintenant que les présidents sont élus par dépit et pour le fameux front républicain, là. Et par des minorités finalement. Donc voilà, et en plus au passage, c'est difficilement gérable pour les équipes parce que de toute façon, ils sont pas aimés des Français. Moi, j'ai eu 60 ans. J'ai vu côtoyer des politiques dans ma vie, mais surtout en local. Il y avait un certain respect. Les gens aimaient l'homme ou la femme qu'ils avaient en face de lui. C'était des gens qui dédiaient toute leur vie, je pense aux élus locaux, pour leur village ou pour leur région, pour leur département. Mmh. Là, aujourd'hui, en fait, c'est devenu un business. C'est juste, en fait, ils ont envie d'être. Il n'y a pas cette notion, effectivement, d'intérêt général et de se battre pour le pays. Et donc, quand on est capable de se battre pour le pays, on est capable de le faire sur tous les sujets, et même de prendre le risque sur le Covid ou sur le problème qui nous vient des États-Unis. Excusez-moi, mais j'ai une pensée vraiment affectueuse pour Myriam Palomba. On aime, on n'aime pas, moi c'est mon amie. C'est grâce à elle, c'est un jour, je suis allé chez Hanouna parce qu'elle a dit, mais vous savez, il y a cet homme-là, il se bat dans son salon pour sauver sa femme, et elle s'adressait à un médecin qui était en train de dire que c'est pas vrai, qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, etc. Quand elle a parlé des problèmes liés à la pédocriminalité, elle s'est fait virer de chez Hanouna. Et aujourd'hui, il y a l'affaire Epstein, c'est ça ?
Epstein,
excusez-moi de mal prononcer. Et ça lui donne raison, en fait. Mais elle a perdu son emploi, en fait, elle. Elle a été virée comme une malpropre. Mais s'il y avait eu des hommes politiques et des femmes courageuses depuis des années, capables de vraiment traiter ces sujets-là, plutôt que quelques-uns comme Carl Zéro ou Myriam Palomba, bah peut-être que la société irait mieux. Là, on parle, mais c'est des choses affreuses, on parle des vaccins, mais c'est pareil, c'est un peu le même style. C'est-à-dire que finalement, on vaccine des gens avec des produits un peu n'importe comment, on s'en fout ce que ça va donner, c'est pour l'argent. Là, on apprend qu'il y a des viols de femmes, de jeunes filles, d'enfants, de bébés, mais c'est aberrant, c'est complètement dingue.
Alors, Marc,
et qu'il n'y ait pas des hommes politiques, excusez-moi,
oui,
qui soient capables de se dire, mais m'en fous de ma carrière, mais ça, je vais le dénoncer. Voilà, et bien la vaccination, c'est pareil. Moi, quand je vois Christine Kelly, par exemple, qui dit, ah, c'est super, j'ai entendu dire, oui, ah, elle parle, mais non, j'aurais aimé qu'elle parle pendant, et que finalement, elle risque de perdre sa place, parce que peut-être que si elle avait dit, bah, écoutez, voilà, je suis en direct à l'antenne, et je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai marre, parce qu'on m'interdit de parler des effets secondaires. Bon, bah, peut-être qu'elle aurait perdu son emploi, mais peut-être que ça aurait créé des émules, et qu'il y a des gens se seraient levés derrière elle.
Moi, sur, en fait, sur Radio Courtoisie, justement, nous en avons parlé en 2020, en 2021, oui, chaque année. Et avant que vous ne le disiez, j'en profite pour dire, c'est peut-être malvenu et les gens me pardonneront, mais voilà, si vous avez envie de continuer à entendre la vérité, en fait, année après année, ben, n'hésitez pas, soutenir.rc.fr. Et ça permet voilà, de recevoir Marc Doyer et de lui poser les questions intelligentes. Jean-Étienne posa une dernière question, justement.
Vous évoquiez Myriam Palomba, non pas que je veuille lancer un grand débat ou je ne sais quoi. Excusez-moi, c'est pas méchant, mais ça me fait un peu sourire parce que tu voyez, on aimerait bien les entendre ici aussi et qu'ils soient un peu plus ouverts. Moi, j'ai essayé de la contacter plusieurs fois. C'est non. C'est un peu triste, ça, quand même.
Ah bah c'est dommage, mais c'est vraiment mon ami.
Il faut être un peu ouvert.
Je vais lui demander pourquoi c'est non.
Et ben voilà,
que ça serait très surtout bien, que moi je suis sincèrement elle fait partie des personnes qui m'ont je le dis aujourd'hui hein, qui m'ont sauvé hein.
J'aimerais bien l'entendre
Donc voilà, donc elle vous a sauvé.
Oui, elle m'a sauvé, oui. Elle m'a sauvé et elle a pris des risques en fait et ça lui a coûté très cher. Elle a perdu son boulot elle a ce côté un peu des fois je veux dire pétillant ou elle est un peu excessive, mais c'est sa façon elle, mais surtout, elle est profondément honnête. Et voilà, et c'est le cas aussi de votre travail, il est profondément honnête, puisque vous me recevez aujourd'hui. Cyril Hanouna, par exemple, avec qui j'échange et qui m'avait dit, Marc, tu viendras ici quand tu veux, t'es chez toi. Un jour en off, me dit, oui, mais on sait tout ça, on sait que t'as raison. Bon, bah depuis, il m'a dit, c'est pas que je veux pas, je ne peux pas. Voilà.
Et ben voilà, sur Radio Courtoisie, on peut.
Merci beaucoup
mille fois, Marc Doyer, d'être venu témoigner avec autant de courage de ce que vous avez traversé et de ce que vous traversez encore.
Merci beaucoup de votre accueil. Et puis, j'en profite. Voilà, j'espère gagner et qu'il y ait une jurisprudence et que ça donne d'espoir aux gens qui souffrent. Voilà, s'il y a des gens qui souffrent de tout ça.
Eh bien, on le souhaite.
Merci.